Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Dans le cadre de Danse on Air, votre programme chorégraphique en ligne consacré ce mois-ci à la danse partitionnelle, j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec les auteurs de l'ouvrage « Composer en danse, un vocabulaire des opérations et des pratiques » paru en début d'année 2020 aux éditions Les Presses du Réel. Je vais donc m'entretenir avec la chorégraphe Myriam Gourfink, l'historienne de l'art de formation Yvan Chapuis et Julie Perrin, enseignante chercheuse au département danse de l'Université Paris 8. Bonjour mesdames, merci d'avoir accepté de participer à cet entretien imaginé par la manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine. Pendant une petite vingtaine de minutes, nous allons donc échanger autour de cette vaste enquête que vous avez menée ces dernières années et qui se matérialise en un ouvrage de près de 600 pages. Donc, sans plus attendre, je vais me tourner vers Myriam et lui poser une première question. Myriam, entre votre élan initial d'ouvrir un Darmstadt de la danse et l'écriture à six mains de cet ouvrage, quelle est la genèse de Composer en danse ?
Oui, donc l'idée, c'était effectivement d'aviver dans la communauté de danseurs quelque chose de l'ordre d'un Darmstadt, qui était en fait un cours d'été de musique moderne qui a été créé en 1946, où se sont retrouvés Feldman, Ligeti, Messiaen, Varèse, Berriot, Boulez, Stockhausen, mais aussi John Cage, par exemple, et où ils discutaient en fait composition. Donc, dans un premier temps, j'ai eu l'idée d'une formation qui s'appelle Transform, que j'ai mis en place pour la Fondation Royaumont et qui réunissait chaque année un ensemble de chorégraphes, on va dire, plus jeunes et un ensemble de chorégraphes plus chevronnés, en tout cas ayant une expérience, et qui donnait matière à des échanges et où tout le monde, en fait, apprenaient quelque part ensemble. Voilà. Et puis, l'idée s'est profilée de vouloir aller un peu plus loin, de creuser un peu plus. Et donc, j'étais invitée à la HESSO à Lausanne, la manufacture, en 2014 et 2015 par Yvan Chapuis pour parler des partitions en danse. Et lors d'une discussion, je lui ai fait part de mon envie donc, de creuser le sujet de la composition en danse. Elle m'a tout de suite dit qu'il fallait le faire et donc on s'est mis en recherche d'une chercheuse et tout de suite on a pensé en fait à Julie Perrin. Et Julie étant d'accord, voilà, on a commencé à travailler ensemble. Donc au départ, Yvan ne voulait pas faire partie vraiment du projet. Elle voulait le suivre de loin puisqu'elle est directrice du département de la recherche à la manufacture de Lausanne. Mais au final, elle a participé en fait à nos premières réunions sur le sujet et finalement, elle nous a rejoints en fait pour cette recherche. Voilà.
Merci. Alors, Julie Perrin, pourquoi en 2021 interroger la composition en danse?
Alors, poser cette question aujourd'hui, ça me semblait vraiment très enthousiasmant quand Myriam m'a contactée, parce que depuis, je dirais, une vingtaine d'années, beaucoup d'œuvres chorégraphiques qu'on voit sur les scènes, il me semble, nous interrogent sur leur mode de composition. Enfin, en fait, une part de ces œuvres ont pour sujet la question de la composition, la question de la structure. Et donc, en tant que spectateur et spectatrice, on est amené à essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment les éléments sont reliés les uns avec les autres, qu'est-ce qui permet de passer d'une séquence à une autre, etc. Donc, c'est une question, on peut dire, assez actuelle, même si elle n'est pas nouvelle. Et en tout cas, le livre a pour ambition d'éventuellement apporter des réponses, ou en tout cas d'ouvrir aux spectateurs quelques portes vers les fabriques de ses œuvres. Ça, c'est une des premières raisons. L'autre raison, c'est que composer, c'est, on pourrait dire, une façon d'agencer des entités et que c'est donc au cœur, le cœur même de la fabrique du sens. C'est-à-dire que les œuvres sont... Enfin, la composition, c'est aussi l'endroit où on va rapprocher des choses entre elles, créer des formes d'intelligence, composer des mondes. Et ces ensembles-là sont aussi des façons de mettre en relation non seulement des entités, mais aussi l'art avec son public. Et ces esthétiques de la relation sont extrêmement importantes pour porter un regard sur les œuvres, mais plus largement aussi pour porter un regard sur le monde. Et puis, dernière chose, il se trouve que aujourd'hui, on n'a pas en langue française d'ouvrage sur la composition, et que pour des jeunes artistes, en particulier des jeunes chorégraphes, pouvoir se rapporter à cette histoire-là de leur art n'est pas si aisé. Il existe en anglais beaucoup de manuels de composition. Alors nous, on n'a pas tenté de faire un manuel, mais en tout cas, on donne la parole à des artistes, donc 10 artistes qui vont, eux, raconter comment ils font, parfois se contredire, avoir des points de vue très diversifiés. Et l'objet du livre, c'est de pouvoir ouvrir finalement un dialogue avec aussi de futurs, de jeunes artistes ou de futurs chorégraphes pour qu'eux-mêmes se positionnent, réfléchissent aux mots qu'ils utilisent, inventent de nouveaux mots ou dialoguent avec ces artistes de l'ouvrage.
Très bien. Myriam, je me tourne à nouveau vers vous. Pourriez-vous nous détailler les grandes étapes de cette enquête qui a abouti à Composer en danse ?
Alors, la première chose dans nos réunions préparatoires du projet que nous avons décidé de faire, c'est, d'abord on a sélectionné effectivement les 10 chorégraphes de l'enquête, et puis on a décidé de leur poser en fait des questions pour éviter, qu'ils nous parlent de leur travail avec peut-être des choses habituelles chez eux, parlant de leur parcours, etc. Mais on a essayé de faire en sorte qu'ils visent vraiment la composition dans leur travail. Donc, on les a invités à en parler, et pour ça, on leur a posé un certain nombre de questions. Donc, je vais vous en lire quelques-unes. Par exemple, comment décririez-vous les formes ou structures compositionnelles auxquelles vous avez abouti ? Ou pourriez-vous nommer les opérations d'agencement les plus représentatives de votre pratique compositionnelle ? Comment articulez-vous la production du geste et la composition ? L'invention d'une forme au sens de structure ou la construction dramaturgique prévaut-elle sur l'invention du geste ? Ou comment concevez-vous le pas, la phrase, la séquence, le rapport entre la partie et le tout, la tâche, le phrasé, l'acmé, la transition, la juxtaposition, le collage, etc. Donc, voilà, un certain nombre de questions pour favoriser des réponses vraiment sur notre sujet. Cela dit, 7 des chorégraphes ont quand même évoqué, bien sûr, leur parcours. Tous ont répondu au questionnaire. Enfin, le questionnaire finalement était très présent, mais plus ou moins présent en fonction des personnes. Je pense qu'il n'y a qu'une seule personne réellement à avoir répondu à l'ensemble du questionnaire, et puis sinon les autres ont cheminé à l'intérieur. Voilà, donc ensuite donc, on les a tous invités à la manufacture à Lausanne. Ils avaient à chaque fois une demi-journée pour répondre à ce questionnaire, et ils y répondaient tous en fait devant une assemblée qui était constituée des autres chorégraphes. Donc on s'est réunis à chaque fois tous ensemble pour les écouter. Donc ça, je crois que c'est très important à mentionner. Ensuite, donc, on a tout enregistré, on a transcrit, on a analysé ce qu'on avait récolté, et chemin faisant, on a élaboré un premier glossaire avec à peu près une centaine d'entrées, 107 en fait, j'ai calculé. Ce glossaire nous a servi de discussion et nous a servi à analyser et à extraire finalement ce qui concernait la composition dans les paroles que nous avions récoltées. Voilà. Et donc, au fur et à mesure de nos discussions à trois, entre Ivan, Julie et moi, on est arrivé, alors pas tout de suite aux 20 grandes notions qui sont présentes dans le livre, mais en tout cas, on avait déjà quand même établi un premier tableau avec ces grandes notions. Alors, si je vous les lis, ça donne par exemple assembler, choisir, citer, collectif, contexte, contrainte, dramaturgie, espace, indétermination, in situ, matériaux, musique, partition, pratique, rythme, structure, tâche, transposée, unisson. Voilà, et c'est à partir après de ces grandes notions qu'on a finalement formalisé notre livre, qui ensuite, on a ajouté quelques entretiens aussi. Voilà.
Très bien. Alors, vous parliez d'avoir donné donc la parole à 10 artistes, 10 chorégraphes. Pourriez-vous nous les présenter? Je me tourne vers Ivan.
Vous les présentez, oui, bien sûr. Donc, Marco Berrettini, Nathalie Collantès, Isidore Villiers, Myriam Gourfink, Thomas Sauer, Rémi Héritier, Daniel Linéan, Laurent Pichot, Loïc Touzé et Cindy Van Acker. Alors, on a réuni ce corpus, on pourrait dire, de travail et de réflexion à partir de plusieurs logiques ou plusieurs critères ou paramètres. Comme l'a expliqué Myriam, c'est elle qui a initié le projet, je pense avec un désir premier d'échanger avec ses contemporains, avec ses collègues, de façon précise, formalisée sur la composition. Je me souviens dans nos premières discussions, elle faisait remarquer que oui, on parle de comment on travaille, etc., quand on se croise dans les festivals, dans les soirées ou à la sortie des théâtres, mais rarement, très rarement, de façon formalisée et on pourrait dire précise, en y accordant du temps finalement et de l'attention. Et donc, évidemment, la manière dont on a réuni les chorégraphes, ça part de là. Je pense que ça repose d'abord sur une certaine politique de l'amitié, d'affinité esthétique aussi, mais aussi sur une autre forme de politique qui serait la politique de proximité. Le projet il s'est développé à Lausanne, à la Haute École de Théâtre et de Danse, la Manufacture. Et il se trouve que des danseurs et des chorégraphes y interviennent, hein, enseignent hein, et font de la recherche également. Donc, on s'est aussi appuyé sur cette proximité-là. C'était important pour nous aussi, je pense, qu'il y ait plusieurs tranches d'âge, ou plusieurs générations, je ne sais pas comment dire, qui soient représentées. Il y a un trentenaire, il y a plusieurs quadragénaires, il y a des quinquagénaires. Donc voilà, je pense que sur 20 à 30 ans de différence, ça permettait d'avoir accès à aussi différentes formations. Hein. On a des personnes qui ont été formées dans des écoles en Europe, en Allemagne, en Belgique, en France, bien sûr, en Angleterre, aux États-Unis, avec des formations parfois classiques, d'autres fois beaucoup plus informelles, en contemporain. Très institutionnalisé ou pas. Donc voilà, il y a comme ça une forme de diversité. Et puis, il y a autre chose, on a cherché aussi, je pense, un certain équilibre homme-femme. Donc ça, c'était là. Et puis, évidemment, d'une manière générale, on s'est quand même posé la question de savoir si ces personnes qu'on allait inviter à participer à notre réflexion sur la composition, qui allait être l'objet de notre étude, mais objet extrêmement actif, est-ce que ça les intéressait? On s'est demandé ça, si j'invite un tel, est-ce que ça fera sens pour lui de se poser des questions sur la composition? Donc voilà, et puis juste finir en disant peut-être que sur l'ensemble des personnes qu'on a invitées, elles ont toutes accepté. Donc on n'a pas eu à chercher plus loin.
Très bien. Eh bien, Yvonne, je vous propose maintenant de nous lire un extrait pour que nos auditeurs et auditrices puissent, le temps d'une lecture, s'immerger dans l'ouvrage. Je vous laisse nous présenter ce passage.
Oui, alors j'ai choisi un chapitre qui s'appelle « Transition », qui est une discussion collective qui était donc centrée sur des notions de transition, qui a eu lieu le 24 juin 2017 à Lausanne, donc à l'école de la manufacture, avec Marco Berrettini, Nathalie Collantès, Myriam Goffin, Thomas Sauer, Laurent Pichot, Loïc Touzé, Cindy Van Acker. Donc Julie Perrin était là et moi-même, et il manquait donc Didier Dorvilliers et Rémi Héritier, qu'on est ensuite allé rencontrer à Paris, parce qu'ils ne pouvaient pas être là ce jour-là. Donc voilà, je vais interpréter tous les rôles, mais je vous mentionnerai qui parle à chaque fois. Donc c'est Julie Perrin qui pose le débat et qui dit « Pendant notre première session de travail collectif en 2016, donc un an auparavant, la notion de transition a été abordée par certains d'entre vous. Il nous semble important d'y revenir. Comment passer d'un moment à l'autre ? Il y a au moins deux niveaux de transition, celui d'écriture du geste, passer d'un geste à l'autre, et celui qui organise la succession des parties d'une pièce, séquence, phrase, etc. Comment des éléments s'articulent-ils les uns aux autres ? Et elle poursuit, il était apparu que pour certains d'entre vous, c'était un moment crucial pour la construction du sens de l'œuvre. La transition peut avoir des liens avec la dramaturgie. Loïc a pu aussi associer la transition à l'entrée en scène. Il y a sans doute différents lieux de la transition. Il ne s'agit pas tant ici de définir ce qu'est une transition que de réfléchir à quel moment vous vous posez cette question de la transition, à quel moment elle se travaille et de quelle façon. Donc c'est Marco Berrettini qui va répondre. La transition est liée au phrasé dont nous avons parlé hier matin. Quand on arrive à la fin d'une phrase, on sait déjà si on veut que ça glisse ou que ça s'arrête net, que ça fusionne ou que ça s'arrête. La transition est prise en compte dans la réflexion sur le phrasé. Julie Perrin poursuit, on pourrait tenter de trouver un vocabulaire qui permette de nommer la qualité de la transition. Et là, Laurent Pichot dit, il y a par exemple le coq à l'âne de Martine Pisani. Et Marco poursuit, si par exemple une pièce repose sur l'idée de rendre la fluidité visible, les transitions deviennent un principe dramaturgique de base. Au début d'une création, on peut décider de mettre l'accent sur la manière dont les différents éléments se mêleront, comme la danse ou la bande-son, pour laquelle on ne veut pas qu'il y ait d'arrêt. De fait, on décide dès le début du travail d'être attentif aux transitions, de telle sorte qu'une chose coulera dans une autre. Si dans une autre pièce, on décide par exemple de mettre l'accent sur une thématique ou d'autres éléments, un principe parcourra l'ensemble et ce problème de transition se posera moins. Et Julie continue, que signifie concrètement fusionner ? Tu as dit que tu pouvais couper ou fusionner. Marco répond, quand j'ai dit fusionner, je pensais au niveau de l'image. Des choses adviennent déjà alors que d'autres ne sont pas encore finies. Et Julie essaye de creuser la question en disant « Les matériaux se superposent ?» Oui, répond Marco. Donc là, il y a Laurent Pichot qui apporte une précision et qui dit « On dit tuiler ». Marco répond ou reprend « Oui, tuiler ». Au niveau de la transition, parfois, le plus intéressant, ce n'est pas de faire se succéder des petits bouts, mais de faire en sorte que, parallèlement à une scène d'une heure et quart, par exemple, d'autres scènes plus courtes se déroulent, comme si plusieurs pièces se superposaient. Cela devient plus excitant. Sinon, il s'agirait seulement de relier des séquences. Et Julie revient avec une question. Ce qui est une transition au départ peut devenir, dans certains cas, une matière en soi. Cela signifie-t-il que la transition peut possiblement devenir aussi longue qu'une séquence? Et donc là, je ne lirai pas, mais juste donner un petit avant-coup de la réponse qui suit. C'est Myriam qui va expliquer comment précisément son travail sur le souffle lui fait penser la transition de cette manière.
D'accord. Je vais vous poser à toutes les trois, enfin vous allez y répondre toutes les trois si vous le souhaitez, une dernière question. Avez-vous eu des retours des lecteurs et quels sont-ils ?
Je veux bien commencer. On a eu des retours très variés. On n'a pas les lecteurs ne viennent pas forcément raconter aux auteurs leur lecture, mais en tout cas, si le livre peut se lire par le milieu, c'est un vocabulaire, on peut le prendre par petits chapitres. On a aussi eu j'ai rencontré des lecteurs qui m'ont raconté avoir lu le livre du début à la fin, donc ce qui m'a beaucoup surprise. Voilà, donc des lecteurs très assidus qui se sont accrochés, qui ont lu chronologiquement, enfin plutôt alphabétiquement, dans l'ordre alphabétique, toutes les sections. Il y a eu aussi une lectrice qui m'a raconté avoir plutôt pisté les témoignages d'un chorégraphe. Donc elle a lu transversalement tout ce qu'avait pu dire un chorégraphe à travers le livre. Donc ça, c'est encore un autre mode. Et puis peut-être, moi, je finirai par un chorégraphe qui a dit quelque chose qui m'a fait très plaisir. Il m'a dit « J'ai eu l'impression d'être assis à la table avec vous. Mm-hmm. » Voilà, ça m'a beaucoup plu, cette idée qu'on pouvait, en tant que lecteur, se sentir vraiment inclus dans la discussion et dialoguer silencieusement avec nous.
Très bien, merci Julie. Myriam, peut-être ?
Alors, j'ai eu des retours différents, en fait, aussi de personnes qui ne viennent pas forcément du champ de la danse et qui, en fait, ont plongé dans le livre, vraiment en le prenant en fonction de leurs envies. Alors, soit effectivement complètement dans le milieu scolaire des instituteurs, des institutrices, pour qui s'intéressent à la danse, hein, par contre, avec effectivement qui ont cette option-là très très forte et qui s'en sont servies en fait pour réfléchir à ce qu'elles allaient amener au niveau pédagogique, au niveau de la transmission à des enfants, soit effectivement alors vraiment des enseignants aussi qui s'en servent pour présenter en fait une pluralité, une diversité d'approches. Soit effectivement aussi un écrivain qui m'a dit que lui, ça lui faisait plaisir en fait de le lire parce que ça le renvoyait aussi à des pratiques présentes dans la littérature et du coup, ça lui donnait aussi des pistes de réflexion. Voilà.
D'accord. Ivan ?
Moi, j'ai eu des retours d'étudiants ou de chercheurs, donc des personnes qui sont au sein de la manufacture à Lausanne, plutôt des gens du théâtre. Et ce qui était assez appréciable, c'est qu'ils l'ont pris, je pense, un peu pour ce qu'on a imaginé qu'il était, c'est-à-dire un manuel ou enfin pas un manuel, mais disons un endroit où on peut trouver des outils. Par exemple, un acteur qui est sorti d'école il y a quelques années et qui s'interroge sur le théâtre in situ et qui a même envie de se lancer dans un projet de recherche sur le théâtre in situ. Voilà, il trouvait des premiers éléments de réponse parce qu'il se trouve qu'on a un chapitre qui est dédié à l'in situ en danse avec une introduction de Julie qui met peut-être en perspective ça de manière historique. Et puis après, on a des paroles d'artistes qui viennent dire comment eux, ils se saisissent de la question, pourquoi ils s'en saisissent, pourquoi ils pensent la danse de cette façon-là et pas dans une boîte noire. Voilà. Et puis, j'ai eu d'autres retours de ce type, notamment sur le chapitre qui s'appelle Pratique, qui est comment on peut se mettre au travail collectivement, comment on peut créer une petite communauté avant de se lancer dans un projet. Et voilà, à chaque fois, les retours qui étaient faits, c'était que c'est toujours stimulant et rassurant aussi, je crois, d'écouter. Alors là, en l'occurrence, c'est de lire, mais on voit bien que cette lecture, elle est liée à une écoute. Comment d'autres artistes se sont frottés, confrontés, et parfois ont trouvé des réponses aux questions qui se posaient. Et puis voilà, il y a une mise en partage.
Merci. Eh bien, merci à toutes les trois d'avoir répondu à ces quelques questions. J'espère que vous aurez donné envie à nos auditeurs et auditrices de se plonger dans la lecture de Composer en danse, un vocabulaire des opérations et des pratiques, ouvrage disponible dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, et qui peut être également commandé sur le site internet des Presses du Réel. Merci encore Myriam, Ivan et Julie d'avoir répondu à ces questions. Je vous souhaite une belle journée et puis à très bientôt.